Je dis donc, pour en revenir à mon propos, qu'il n'y a point d'apparence d'estimer que les bêtes fassent par inclination naturelle et forcée les mêmes choses que nous faisons par notre choix et industrie. Nous devons conclure de pareils effets, pareilles facultés, et de plus riches effets, des facultés plus riches, et confesser, par conséquent, que ce même discours, cette même voix que nous tenons à œuvrer, aussi la tiennent les animaux ou quelque autre meilleur. Pourquoi imaginons-nous en eux cette contrainte naturelle, nous qui n'en éprouvons aucun pareil effet ? Joint qu'il est plus honorable d'être acheminé et obligé à règlement agir par naturelle et inévitable condition, et plus approchant de la divinité que d'agir règlement par liberté téméraire et fortuite. Et plus sûr de laisser à nature qu'à nous les rênes de notre conduite. La vanité de notre présomption fait que nous aimons mieux de voir à nos forces qu'à sa libéralité notre suffisance, et enrichissons les autres animaux des biens naturels et les leur renonçons pour nous honorer et ennoblir des biens acquis. Par une humeur bien simple, ce me semble, car je priserais bien autant des grâces toutes miennes et naïves que celles que j'aurais été mendier et quêter de l'apprentissage. Il n'est pas en notre puissance d'acquérir une plus belle recommandation que d'être favorisé de Dieu et de nature. Par ainsi le renard, de quoi se servent les habitants de la Thrace quand ils veulent entreprendre de passer par-dessus la glace de quelque rivière gelée et le lâchent devant eux pour cet effet, quand nous le verrions au bord de l'eau, approcher son oreille bien près de la glace, pour sentir s'il aura d'une longue ou d'une voisine distance bruire l'eau courante au-dessous, et selon qu'il trouve par là qu'il y a plus ou moins d'épaisseur en la glace, se reculer ou s'avancer, n'aurions-nous pas raison de juger qu'il lui passe par la tête ce même discours qu'il ferait en la nôtre, et que c'est une ratiocination et conséquence tirée du sens naturel? Ce qui fait bruit se remue, ce qui se remue n'est pas gelé, ce qui n'est pas gelé est liquide, et ce qui est liquide plie sous le fait. Car d'attribuer cela seulement à une vivacité du sens de l'ouïe, sans discours et sans conséquence, c'est une chimère, et ne peut entrer en notre imagination. De même faut-il estimer de tant de sortes de ruses et d'inventions de quoi les bêtes se couvrent les entreprises que nous faisons sur elles. Et si nous voulons prendre quelque avantage de cela même, qu'il est en nous de les saisir, de nous en servir et d'en user à notre volonté, ce n'est que ce même avantage que nous avons les uns sur les autres. Nous avons à cette condition nos esclaves, et les climacides étaient-ce pas des femmes en Syrie qui servaient couchées à quatre pattes de marchepieds et d'échelle aux dames à monter en coche. Et la plupart des personnes libres abandonnent pour bien légère commodité leur vie et leur être à la puissance d'autrui. Les femmes et concubines des Thraces plaident à qui sera choisi pour être tué au tombeau de son mari. Les tyrans ont-ils jamais failli de trouver assez d'hommes voués à leur dévotion ? Aucun d'eux ajoutant davantage cette nécessité de les accompagner à la mort comme en la vie. Des armées entières se sont ainsi obligées à leur capitaine. La formule du serment en cette rude école des escrimeurs à outrance portait ses promesses. Nous jurons de nous laisser enchaîner, brûler, battre et tuer de glaive et souffrir tout ce que les gladiateurs légitimes souffrent de leur maître, engageant très religieusement et le corps et l'âme à son service. C'était une obligation véritable, et s'il s'en trouvait 10 000 telle année, qui y octroient et s'y perdaient. Quand les Scythes enterraient leur roi, ils étranglaient sur son corps la plus favorite de ses concubines, son échanson, écuyer d'écurie, chambellan, huissier de chambre et cuisinier. Et en son anniversaire, il tuait 50 chevaux montés de 50 pages qu'ils avaient empalés par l'épine du dos jusqu'au gosier et les laissait ainsi plantés en parade autour de la tombe. Les hommes qui nous servent le font à meilleur marché et pour un traitement moins curieux et moins favorable que celui que nous faisons aux oiseaux, aux chevaux et aux chiens. À quel souci ne nous démettons-nous pour leur commodité? Il ne me semble point que les plus abjects serviteurs fassent volontiers pour leur maître ce que les princes s'honorent de faire pour ces bêtes. Diogène, voyant ses parents en peine de leur acheter de servitude, « Ils sont folles, disait-il, c'est celui qui me traite et nourrit qui me sert, et ceux qui entretiennent les bêtes se doivent dire plutôt les servir qu'en être servis. » Et si elles ont cela de plus généreux, que jamais lion ne s'asservit à un autre lion, ni un cheval à un autre cheval, par faute de cœur. Comme nous allons à la chasse des bêtes, ainsi vont les tigres et les lions à la chasse des hommes, et ont un pareil exercice les unes sur les autres. Les chiens sur les lièvres, les brochets sur les tanches, les hirondelles sur les cigales, les éperviers sur les merles, et sur les alouettes. Nous partageons le fruit de notre chasse avec nos chiens et oiseaux, comme la peine et l'industrie. Et au-dessus d'Amphipolis en Thrace, les chasseurs et les faucons sauvages partent justement le butin par moitié. Comme le long des palus maléotides, et si le pêcheur ne laisse au loup de bonne foi une part égale de sa prise, ils vont un continent déchirer ses raies. Et comme nous avons une chasse qui se conduit plus par subtilité que par force, comme celle des colliers de nos tigres et de l'hameçon, il s'en voit aussi de pareil entre les bêtes. Aristote dit que la sèche jette de son col un boyau long comme une ligne, qu'elle étend au loin en la lâchant, et le retire à soi quand elle veut. À mesure qu'elle aperçoit quelques petits poissons s'approcher, elle lui laisse mordre le bout de ce boyau, étant caché dans le sable ou dans la vase, et petit à petit le retire jusqu'à ce que ce petit poisson soit si près d'elle que d'un saut elle puisse l'attraper. Quant à la force, il n'est animal au monde en but de tant d'offenses que l'homme. Il ne nous faut point une baleine, un éléphant et un crocodile, ni tels autres animaux, desquels un seul est capable de défaire un grand nombre d'hommes. Les poux sont suffisants pour faire vaquer la dictature de Sylla. C'est le déjeuner d'un petit ver que le cœur et la vie d'un grand et triomphant empereur. Pourquoi disons-nous que c'est à l'homme, science et connaissance, bâti par art et par discours, de discerner les choses utiles à son vivre et au secours de ses maladies, de celles qui ne le sont pas, de connaître la force de la rhubarbe et du polypode. Et quand nous voyons les chèvres de Candie, si elles ont reçu un coup de trait, aller entre un million d'herbes, choisir le dictame pour leur guérison, et la tortue, quand elle a mangé de la vipère, chercher un continent de l'origanum pour se purger, le dragon fourbir et éclairer ses yeux avec du fenouil, les cigognes se donner elles-mêmes des clistères à tout de l'eau de marine, les éléphants arrachés non seulement de leur corps et de leurs compagnons, mais des corps aussi de leur maître, témoin celui du roi Porus qu'Alexandre défie, les javelots et les dards qu'on leur a été au combat et les arrachés si dextrement que vous ne le saurions faire avec si peu de douleur. Pourquoi ne disons-nous des mêmes que c'est science et prudence? Car de léguer pour les déprimer que c'est par la seule instruction et maîtrise de nature qu'elles le savent, ce n'est pas leur ôter le titre de science et de prudence, c'est la leur attribuer à plus forte raison qu'à nous pour l'honneur d'une si certaine maîtresse d'école. Chrysippus, bien qu'en toute autre chose autant dédaigneux juge de la condition des animaux que nul autre philosophe, considérant les mouvements du chien qui se rencontrant en un carrefour à trois chemins ou à la quête de son maître qui l'a égaré, ou à la poursuite de quelque proie qui fuit devant lui, va essayant un chemin après l'autre, et après s'être assuré des deux et n'y avoir trouvé la trace de ce qu'il cherche, s'élance dans le troisième sans marchander. Il est contraint de confesser qu'en ce chien-là, un tel discours se passe. J'ai suivi jusqu'à ce carrefour mon maître à la trace. Il faut nécessairement qu'il passe par l'un de ces trois chemins. Ce n'est ni par cet huissier-ci, ni par celui-là. Il faut donc infailliblement qu'il passe par cet autre. Et que s'assurant par cette conclusion et discours, il ne se sert plus de son sentiment au troisième chemin, ni ne le sonde plus. Ainsi, s'il est emporté par la force de la raison. Ce trait purement dialecticien et cet usage de propositions divisées et conjointes et de la suffisante énumération des parties vaut-il pas autant que le chien le sage le soit que de trapesance? Si ne sont pas les bêtes incapables d'être encore instruites à notre mode. Les merles, les corbeaux, les pies, les perroquets, nous leur apprenons à parler. Et cette facilité que nous reconnaissons à nous fournir leur voix et haleine si souple et si maniable, pour la former et l'astreindre à certains nombres de lettres et de syllabes, témoigne qu'ils ont un discours au-dedans, qui les rend ainsi disciplinables et volontaires à apprendre. Chacun est saoul, se crois-je, de voir tant de sortes de singeries que les bateleurs apprennent à leurs chiens. Les danses, où il ne se faille une seule cadence du son qu'ils oient, plusieurs divers mouvements et sauts qu'ils leur font faire par le commandement de leurs paroles. Mais je remarque avec plus d'admiration cet effet, qui est toutefois assez vulgaire, des chiens de quoi se servent les aveugles et aux champs et aux villes. Je me suis pris garde comme ils s'arrêtent à certaines portes d'où ils ont accoutumé de tirer l'aumône, comme ils évitent le choc des coches et des charrettes, lors même que pour leur regard, ils ont assez de place pour leur passage. J'en ai vu le long d'un fossé de ville laisser un sentier plein et uni et en prendre un pire pour éloigner son maître du fossé. Comment pouvait-on avoir fait concevoir à ce chien que c'était sa charge de regarder seulement à la sûreté de son maître et mépriser ses propres commodités pour le servir? Et comment avait-il la connaissance que tel chemin lui était bien assez large qu'il ne le serait pas pour un aveugle? Tout cela se peut-il comprendre sans ratiocination? Il ne faut pas oublier ce que Plutarque dit avoir vu à Rome d'un chien avec l'empereur Vespasien, le père au théâtre de Marcellus. Ce chien servait à un batteleur qui jouait une fiction à plusieurs mines et à plusieurs personnages, et y avait son rôle. Il fallait entre autres choses qu'il contrefît pour un temps le mort pour avoir mangé de certaines drogues. Après avoir avalé le pain qu'on feignait être cette drogue, il commença tantôt à trembler, ébranler, comme s'il eût été étourdi. Finalement, s'étendant et se roidissant comme mort, il se laissa tirer et traîner d'un lieu à autre, ainsi que portait le sujet du sujet, et puis, quand il connut qu'il était temps, il commença premièrement à se remuer tout bellement, ainsi que s'il se fût revenu d'un profond sommeil, et levant la tête, regarda çà et là, d'une façon qui étonnait tous les assistants. Les bœufs qui servaient aux jardins royaux de Suse pour les arroser et tourner certaines grandes roues à puiser de l'eau auxquelles il y a des baquets attachés, comme il s'en voit plusieurs en Languedoc, on leur avait ordonné d'en tirer par jour jusque à 100 tours chacun, et ils étaient si accoutumés à ce nombre qu'il était impossible par aucune force de leur en faire tirer un tour davantage. Et ayant fait leur tâche, il s'arrêtait tout court. Nous sommes en l'adolescence avant que nous sachions compter jusqu'à 100, et venons de découvrir des nations qui n'ont aucune connaissance des nombres. Il y a encore plus de discours à instruire autrui qu'à être instruit. Or, laissant à part ce que Démocritus jugeait éprouvait, que la plupart des arts, les bêtes nous les ont apprises, comme l'araignée à tisser et à coudre, l'hirondelle à bâtir, le cygne, le rossignol, la musique, et plusieurs animaux par leur imitation à faire la médecine. Aristote tient que les rossignols instruisent leurs petits à chanter et y emploient du temps et du soin, d'où il advient que ceux que nous nourrissons en cage, qui n'ont point eu loisir d'aller à l'école sous leurs parents, perdent beaucoup de la grâce de leur chant. Nous pouvons juger par là qu'il reçoit de l'amendement par discipline et par étude. Et entre les livres mêmes, il n'est pas un et pareil. Chacun en a pris selon sa capacité. Et sur la jalousie de leur apprentissage, ils se débattent à l'envi d'une contention si courageuse que parfois le vaincu y demeure mort, l'haleine lui faillant plutôt que la voix. Les plus jeunes ruminent pensifs et prennent à imiter certains couplets de chansons. Le disciple écoute la leçon de son père précepteur et en rend compte avec grand soin. Ils se taisent l'un tantôt l'autre. On aura sans corriger les fautes et sans aucune répréhension du précepteur. « J'ai vu, dit Arius, autrefois un éléphant, ayant à chacune cuisse un cymbale pendu et un autre attaché à sa trompe, au son desquels tous les autres dansaient en rond, s'élevant et s'inclinant à certaines cadences, selon que l'instrument les guidait, y avait plaisir à ouïr cette harmonie. Au spectacle de Rome, il se voyait ordinairement des éléphants dressés à se mouvoir et danser au son de la voix, des danses à plusieurs entrelacures, coupures et diverses cadences très difficiles à apprendre. Il s'en est vu qui, en l'heure privée, remémoraient leurs leçons et s'exerçaient par soin et par étude pour n'être tensés et battus de leur maître. Mais cette autre histoire de la pie, de laquelle nous avons plus tard quand même pour répondant, est étrange. Elle était dans la boutique d'un barbier à Rome et faisait merveille de contrefaire avec la voix à tout ce qu'elle oyait. Un jour, il advint que certaines trompettes s'arrêtèrent à sonner trop longtemps devant cette boutique. Depuis cela et tout le lendemain, voilà cette pie pensive, muette et mélancolique. De quoi tout le monde était émerveillé, et pensait-on que le son des trompettes l'eût ainsi estourdi et estonné, et qu'avec lui la voix se fût cantéquant éteinte. Mais on trouva enfin que c'était une étude profonde et une retraite en soi-même, son esprit s'exercitant et préparant sa voix à représenter le son de ses trompettes. De manière que sa première voix, ce fut celle-là, d'exprimer parfaitement leur reprise, leur pose et leur nuance. Ayant quitté par ce nouvel apprentissage et pris à dédain tout ce qu'elle savait dire auparavant. Je ne veux pas omettre d'alléguer aussi cet autre exemple d'un chien, que ce même Plutarque dit avoir vu, car quant à l'ordre, je sens bien que je le trouve, mais je n'observe non plus à ranger ces exemples qu'au reste de toute ma besogne. Lui étant dans un navire, ce chien étant en peine d'avoir l'huile qui était dans le fond d'une cruche, où il ne pouvait arriver de la langue, pour l'étroite embouchure du vaisseau, alla quérir des cailloux et en mit dans cette cruche, jusqu'à ce qu'il eût fait hausser l'huile plus près du bord, où il la put atteindre. Cela, qu'est-ce, si ce n'est l'effet d'un esprit bien subtil ? On dit que les corbeaux de barbarie en font de même quand l'eau qu'ils veulent boire est trop basse. cette action est aucunement voisine de ce que récitaient des éléphants un roi de leur nation, Juba. Que, quand la finesse de ceux qui les chassent, l'un d'entre eux se trouve pris dans certaines fosses profondes qu'on leur prépare et les recouvre loin de menues broussailles pour les tromper, ses compagnons y apportent en diligence force pierres et pièces de bois afin que cela l'aide à se mettre hors, et cet animal rapporte en tant d'autres effets à l'humaine suffisance que si je voulais suivre par le menu ce que l'expérience en a appris, je gagnerais aisément ce que je maintiens ordinairement, qu'il se trouve plus de différence de tel homme à tel homme que de tel animal à tel homme. Le gouverneur d'un éléphant en une maison privée de Syrie dérobait à tous les repas la moitié de la pension qu'on lui avait ordonnée. Un jour, le maître voulut lui-même le panser, versa dans sa mangeoire la juste mesure d'orge qu'il lui avait prescrite pour sa nourriture. L'éléphant, regardant de mauvais œil ce gouverneur, sépara avec la trompe et en mit à part la moitié, déclarant par là le tort qu'on lui faisait. Et un autre, ayant un gouverneur qui mêlait dans sa mangeaille des pierres pour en croître la mesure, s'approcha du pot où il faisait cuire sa chair pour son dîner et le lui remplit de cendres. Cela, ce sont des effets particuliers, mais ce que tout le monde a vu et que tout le monde sait, quand toutes les armées qui se conduisaient du pays de Levant, l'une des plus grandes forces consistait aux éléphants, desquels on tirait des effets sans comparaison plus grands que nous le faisons à présent de notre artillerie, qui tient à peu près leur place en une bataille ordonnée. Cela est aisé à juger à ceux qui connaissent les histoires anciennes. Il fallait bien qu'on se répondit à bon escient de la créance de ces bêtes et de leurs discours, leur abandonnant la tête d'une bataille. Là où le moindre arrêt qu'elles eussent su faire pour la grandeur et pesanteur de leur corps, le moindre effroi qui leur eût fait tourner la tête sur les gens, était suffisant pour tout perdre. Et c'est vu peu d'exemples où cela soit advenu qu'ils se rejetassent sur leurs troupes au lieu que nous-mêmes, nous rejetons les uns sur les autres et nous rompons. On leur donnait charge non d'un mouvement simple, mais de plusieurs diverses parties au combat, comme faisaient aux chiens les Espagnols à la nouvelle conquête des Indes, auxquels ils payaient solde et faisaient partage au butin, et montraient ces animaux autant d'adresse et de jugement à poursuivre et arrêter leur victoire, à charger ou à reculer, selon les occasions, à distinguer les amis des ennemis, comme ils faisaient d'ardeur et d'âpreté. Nous admirons et pesons mieux les choses étrangères que les ordinaires, et sans cela je ne me fusse pas amusé à ce long registre, car, selon mon opinion, qui contrôlera de près ce que nous voyons ordinairement et ces animaux qui vivent parmi nous, il y a de quoi y trouver des effets autant admirables que ceux qu'on va recueillant es pays et siècles étrangers. C'est une même nature qui roule son cours. Qui en aurait suffisamment jugé le présent état en pourrait sûrement conclure et tout l'avenir et tout le passé. J'ai vu autrefois parmi nous des hommes amenés par mer de lointains pays, desquels, parce que nous n'entendions aucunement le langage et que leur façon, au demeurant, et leur contenance et leurs vêtements étaient du tout éloignés des nôtres, qui de nous ne les estimait, et sauvages et brutes? Qui n'attribuait à stupidité et à bêtise de les voir muets et ignorant la langue française, ignorant nos baises mains et nos inclinations serpentées, notre port et notre maintien, sur lequel, sans faillir, doit prendre son patron la nature humaine? Tout ce qui nous semble étrange, nous le condamnons, et ce que nous n'entendons pas. Il nous advient ainsi un jugement que nous faisons des bêtes. Elles ont plusieurs conditions qui se rapportent aux nôtres, De celles-là, par comparaison, nous pouvons tirer quelques conjectures, mais de ce qu'elles ont particulier, que savons-nous que c'est ? Les chevaux, les chiens, les bœufs, les brebis, les oiseaux et la plupart des animaux qui vivent avec nous reconnaissent notre voix et se laissent conduire par elle. S'y faisait bien encore la murène de Crassus et venait à lui quand il l'appelait. Et le font aussi les anguilles qui se trouvent à la fontaine d'Arétuse. Et j'ai vu des gardoirs assez où les poissons accourent pour manger à certains cris de ceux qui les traitent. Nous pouvons juger de cela. Nous pouvons aussi dire que les éléphants ont quelque participation de religion, d'autant qu'après plusieurs ablutions et purifications, on les voit haussant leur trompe comme des bras, et tenant les yeux fichés vers le soleil levant, se planter longtemps en méditation et contemplation à certaines heures du jour. De leur propre inclination, sans instruction et sans précepte. Mais pour ne voir aucune telle apparence à ces autres animaux, nous ne pouvons pourtant établir qu'ils soient sans religion et ne pouvons prendre en aucune part ce qui nous est caché. Comme nous voyons quelque chose en cette action que le philosophe Cléanthe remarqua pour ce qu'elle retire aux nôtres. Il vit, dit-il, des fourmis partir de leur fourmilière, portant le corps d'un fourmi mort, vers une autre fourmilière de laquelle plusieurs autres fourmis leur vinrent au-devant, comme pour parler à eux, et après avoir été ensemble quelques pièces, ceux-ci s'en retournèrent pour consulter, penser avec leurs concitoyens, et firent ainsi deux ou trois voyages pour la difficulté de la capitulation. Enfin, ces derniers venus apportèrent au premier un verre de leur tanière, comme pour la rançon du mort, lequel verre les premiers chargèrent sur leur dos et emportèrent chez eux, laissant aux autres le corps du trépassé. Voilà l'interprétation que Cléante s'y donna, témoignant par là que celles qui n'ont point de voix ne laissent pas d'avoir pratiqué communication mutuelle, de laquelle c'est notre défaut que nous ne soyons participants, et nous mêlons à cette cause sottement d'en opiner. Or, elles produisent encore d'autres effets, qui surpassent de bien loin notre capacité, auxquels il s'en faut pourtant que nous puissions arriver par imitation, que par imagination même, nous ne le pouvons concevoir. Plusieurs tiennent qu'en cette grande et dernière bataille navale qu'Antonius perdit contre Auguste, sa galère capitainesse fut arrêtée au milieu de sa course par ce petit poisson que les Latins nomment Remora à cause de cette sienne propriété d'arrêter toutes sortes de vaisseaux auxquels il s'attache. Et l'empereur Caligula, voyant avec une grande flotte en la côte de la Romanie, sa seule galère fut arrêtée tout court par ce même poisson, lequel il fit prendre attaché comme il était au bas de son vaisseau, tout dépit de quoi un si petit animal pouvait forcer la mer et les vents et la violence de tous ses avirons pour être seulement attaché par le bec à sa galère, car c'est un poisson à coquille, et s'étonna encore, non sans grande raison, de ce que lui étant apporté dans le bateau, il n'avait plus cette force qu'il avait au dehors. Un citoyen de Cyzique, à qui jadis réputation de bon mathématicien pour avoir appris la condition de l'hérisson. Il a sa tanière ouverte à divers endroits et à divers vents, et prévoyant le vent à devenir, il va boucher le trou du côté de ce vent-là. Ce que remarquant ce citoyen, apportait en sa ville certaines prédictions du vent qui avaient attiré. Le caméléon prend la couleur du lieu où il est assis, mais le poulpe se donne lui-même la couleur qu'il lui plaît selon les occasions pour se cacher de ce qu'il craint et attraper ce qu'il cherche. Au caméléon, ces changements de passion mais au poulpe, ces changements d'action. Nous avons quelques mutations de couleurs à la frayeur, la colère, la honte et autres passions qui altèrent le teint de notre visage, mais c'est par l'effet de la souffrance, comme au caméléon. Il est bien dans la jaunisse de nous faire jaunir, mais il n'est pas en la disposition de notre volonté. Or, ces effets que nous reconnaissons aux autres animaux plus grands que les nôtres témoignent en eux quelques facultés plus excellentes qui nous est occultes, comme il est vraisemblable que sont plusieurs autres de leurs conditions et puissances desquelles nulles apparences ne viennent jusqu'à nous. De toutes les prédictions du temps passé, les plus anciennes et les plus certaines étaient celles qui se tiraient du vol des oiseaux. Nous n'avons rien de pareil ni de si admirable. Cette règle, cet ordre du branler de leur aile, par lequel on tire des conséquences des choses à venir, il faut bien qu'il soit conduit par quelque excellent moyen à une si noble opération. Car c'est prêté à la lettre d'aller attribuant ce grand effet à quelque ordonnance naturelle sans l'intelligence, consentement et discours de qui le produit, et est une opération évidemment fausse. Qu'il soit ainsi, la torpille a cette condition non seulement d'endormir les membres qui la touchent, mais au travers des filets et de la scène, elle transmet une pesanteur endormie aux mains de ceux qui la remuent et manient. Voire, dit-on davantage, que si on verse de l'eau dessus, on sent cette passion qui gagne contre-mont jusqu'à la main et endort l'attouchement au travers de l'eau. Cette force est merveilleuse, mais elle n'est pas inutile à la torpille. Elle la sent et s'en sert, de manière que pour attraper la proie qu'elle guette, on la voit se tapir sous le limon, afin que les autres poissons, se coulant par-dessus, frappés et endormis de cette sienne froideur, tombent en sa puissance. Les grues, les hirondelles et autres oiseaux passagers, changeant de demeure selon les saisons de l'an, montrent assez la connaissance qu'elles ont de leur faculté divinatrice et la mettent en usage. Les chasseurs nous assurent que pour choisir d'un nombre de petits chiens celui qu'on doit conserver pour le meilleur, il ne faut que mettre la mère au propre de le choisir elle-même, comme si on les emporte hors de leur gîte, le premier qu'elle y rapportera sera toujours le meilleur, ou bien, si on fait semblant d'entourner de feu le gîte, de toutes parts, celui des petits au secours duquel elle courra premièrement. Par où il appert qu'elles ont un usage de pronostic que nous n'avons pas, ou qu'elles ont quelque vertu à juger de leurs petits, autres et plus vives que la nôtre. La manière de naître, d'engendrer, nourrir, agir, mouvoir, vivre et mourir des bêtes, étant si voisine de la nôtre, tout ce que nous retranchons de leur cause motrice et que nous ajustons à notre condition au-dessus de la leur, cela ne peut aucunement partir du discours de notre raison. Pour règlement de notre santé, les médecins nous proposent l'exemple du vivre des bêtes et leur façon, car ce mot est de tout temps en la bouche du peuple. Tenez chaud les pieds et la tête, au demeurant vivez en bête. La génération est la principale des actions naturelles. Nous avons quelques dispositions de membres qui nous est plus propre à cela. Toutefois, il nous ordonne de nous ranger à l'assiette et disposition brutale comme plus effectuelle. Et rejette comme nuisibles ces mouvements indiscrets et insolents que les femmes y ont mêlés de leur cru, les ramenant à l'exemple et usage des bêtes de leur sexe plus modeste et rassis. Si c'est justice de rendre à chacun ce qui lui est dû, les bêtes qui servent, aiment et défendent leurs bienfaiteurs et qui poursuivent et outragent leurs étrangers et ceux qui les offensent, elles représentent en cela quelque aire de notre justice, comme aussi en conservant une égalité très équitable en la dispensation de leurs biens à leurs petits. Quant à l'amitié, elles l'ont sans comparaison plus vive et plus constante que n'ont pas les hommes. Hyrcanus, le chien du roi Lysimachus, son maître mort, demeura obstiné sur son lit sans vouloir boire ni manger. Et le jour qu'on en brûla le corps, il prit sa course et se jeta dans le feu où il fut brûlé. Comme fit aussi le chien d'un nommé Pyrrhus, car il ne bougea de dessus le lit de son maître depuis qu'il fut mort, et quand on l'emporta, il se laissa enlever quant à lui, et finalement se lança dans le bûcher où on brûlait le corps de son maître. Il y a certaines inclinations d'affection qui naissent quelquefois en nous, sans le conseil de la raison, qui viennent d'une témérité fortuite, que d'autres nomment sympathie. Les bêtes en sont capables comme nous. Nous voyons les chevaux prendre certaines accointances des uns aux autres, jusqu'à nous mettre en peine pour les faire vivre ou voyager séparément. On les voit appliquer leur affection à certains poils de leurs compagnons, comme à certains visages, et où ils le rencontrent, s'y joindre un continent avec fête et démonstration de bienveillance, et prendre quelque autre forme à contre-cœur et en haine. Les animaux ont choix comme nous en leurs amours, et font quelquefois triage de leurs femelles. Ils ne sont pas exempts de nos jalousies et d'envies extrêmes et irréconciliables. Les cupidités sont ou naturelles et nécessaires, comme le boire et le manger, ou naturelles et non nécessaires, comme l'accointance des femelles, où elles ne sont ni naturelles ni nécessaires, et de cette dernière sorte sont quasi toutes celles des hommes. Elles sont toutes superflues et artificielles. Car c'est merveille combien peu il faut à nature pour se contenter, combien peu elle nous a laissé à désirer. Les apprêts à nos cuisines ne touchent pas son ordonnance. Les stoïciens disent qu'un homme aurait de quoi se substanter d'une olive par jour. La délicatesse de nos vins n'est pas de sa leçon, ni la recharge que nous ajoutons aux appétits amoureux. Ces cupidités étrangères que l'ignorance du bien et une fausse opinion ont coulées en nous sont en si grand nombre qu'elles chassent presque toutes les naturelles. Ni plus ni moins que si en une cité il y avait si grand nombre d'étrangers qu'ils en missent hors les natures libertins ou éteignissent leur autorité et puissance ancienne, l'usurpant entièrement et s'en saisissant. Les animaux sont beaucoup plus réglés que nous ne sommes et se contiennent avec plus de modération sous les limites que nature nous a prescrites, mais non pas si exactement qu'il n'ait encore quelque convenance à notre débauche. Et tout ainsi, comme il s'est trouvé des désirs furieux qui ont poussé les hommes à l'amour des bêtes, elles se trouvent aussi parfois éprises de notre amour et reçoivent des affections monstrueuses d'une espèce à autre. Témoin, l'éléphant, corybal d'Aristophanes, le grammairien, en l'amour d'une jeune bouquetière en la ville d'Alexandrie, qui ne lui cédait en rien aux offices d'un poursuivant bien passionné, car, se promenant par le marché où l'on vendait des fruits, il en prenait avec sa trompe et les lui portait. Il ne la perdait de vue que le moins qui lui était possible, et lui mettait quelquefois la trompe dans le sein, par-dessous son collet, et lui tâtait les tétins. Il récite aussi d'un dragon amoureux d'une fille, et d'une oie éprise de l'amour d'un enfant, la ville d'Azop, et d'un bélier, serviteur de la ménestrière Glossia, et il se voit tous les jours des magots furieusement épris de l'amour des femmes. On voit aussi certains animaux s'adonner à l'amour des mâles de leur sexe. Oppianus et autres récitent quelques exemples pour montrer la révérence que les bêtes en leur mariage portent à la parenté. Mais l'expérience nous fait bien souvent voir le contraire. de subtilité malicieuse. En est-il une plus expresse que celle du mulet du philosophe Thalès, lequel, passant au travers d'une rivière chargée de sel et de fortune y étant branché, si que les sacs qu'il portait en furent tous mouillés, s'étant aperçu que le sel fondu par ce moyen lui avait rendu sa charge plus légère, ne faillait jamais, aussitôt qu'il rencontrait quelque ruisseau, de se plonger dedans avec sa charge jusqu'à ce que son maître, découvrant sa malice, ordonna qu'on le chargeât de laine, à quoi, se trouvant mécompté, il cessa de plus juger de cette finesse. Il y en a plusieurs qui représentent naïvement le visage de notre avarice, car on leur voit un soin extrême de surprendre tout ce qu'elles peuvent et de le curieusement cacher, quoiqu'elles n'en tirent point usage. Quant à la ménagerie, elle nous surpasse non seulement cette prévoyance d'amasser et épargner pour le temps à venir, mais elles sont encore beaucoup de parties de la science qui y est nécessaire. Les fourmis étendent au dehors de l'air leurs grains et semences pour les éventer, rafraîchir et sécher, quand ils voient qu'ils commencent à se moisir et à se sentir leur anse, de peur qu'ils ne se corrompent et pourrissent. Mais la caution et prévention dont ils usent à ronger le grain de froment surpasse toute imagination de prudence humaine. Par le fait que le froment ne demeure pas toujours sec ni sain, mais s'amollit, se résout et détrempe comme en lait, s'acheminant à germer et produire, de peur qu'il ne devienne semence et perde sa nature et propriété de magasin pour leur nourriture, il ronge le bout par où le germe a coutume de sortir. Quant à la guerre, qui est la plus grande et pompeuse des actions humaines, je serais volontiers, si nous nous en voulions servir pour argument de quelques prérogatives, ou au rebours, pour témoignage de notre imbécilité et imperfection. Comme de vrai, la science de nous entre-défaire et entre-tuer, de ruiner et perdre notre propre espèce, il semble qu'elle n'a pas beaucoup de quoi se faire désirer aux bêtes qui ne l'ont pas. Mais elles n'en sont pas universellement exemptes pourtant. Témoins les furieuses rencontres des mouches à miel et les entreprises des princes des deux armées contraires. Je ne vois jamais cette divine description qu'il ne m'y semble lire peinte l'ineptie et vanité humaine. Car ces mouvements guerriers qui nous ravissent de leur horreur et épouvantement, cette tempête de sons et de cris, cette effroyable ordonnance de tant de milliers d'hommes armés, tant de fureur, d'ardeur et de courage, il est plaisant à constater et à considérer par combien vaines occasions elle est agitée et par combien légères occasions éteintes. Toute l'Asie se perdit et se consomma en guerre pour le maquerelage de Paris. L'envie d'un seul homme, un dépit, un plaisir, une jalousie domestique, cause qui ne devrait pas émouvoir deux harengères assez gratignées, c'est l'arme et le mouvement de tout ce grand trouble. Voulons-nous en croire ceux-mêmes qui en sont les principaux auteurs et motifs? Oyon, le plus grand, le plus victorieux empereur et le plus puissant qui fut onc, se jouant et mettant en prise très plaisamment et très ingénieusement plusieurs batailles hasardées et par terre et par mer, le sang et la vie de 500 000 hommes qui suivirent sa fortune et les forces et richesses des deux parties du monde épuisées pour le service de ses entreprises. Or, ce grand corps a tant de visages et de mouvements qui semble menacer le ciel et la terre. Ce furieux monstre a tant de bras et tant de têtes. C'est toujours l'homme, faible, calamiteux et misérable. Ce n'est qu'une sourmilière émue et échauffée, un souffle de vent contraire, le croassement d'un vol de corbeau, le faux pas d'un cheval, le passage fortuit d'un aigle. Un songe, une voix, un signe, une brouée matinière suffisent à le renverser et porter par terre. Donnez-lui seulement d'un rayon de soleil par le visage, le voilà fondu et évanoui. Qu'on lui évente seulement un peu de poussière aux yeux comme aux mouches à miel de notre poète, voilà toutes nos enseignes, nos légions, et le grand Pompéius même à leur tête rompue et fracassée. Car ce fut lui, ce me semble, que Sertorius bâtit en Espagne à toutes ces belles armes qui ont aussi servi à Eumenès comme Antigonus à Sturenna contre Crassus. Qu'on découpe le même de nos mouches après, elles auront et la force et le courage de le dissiper. De fraîche mémoire, les Portugais, assiégeant la ville de Tamely au territoire de Xiatine, les habitants d'Icelle portèrent sur la muraille quantité de ruches de quoi ils sont riches, et avec du feu chassèrent les abeilles si vivement sur leurs ennemis qu'ils abandonnèrent leur entreprise, ne pouvant soutenir leurs assauts épicures. Ainsi demeura la victoire et liberté de leur ville à ce nouveau secours. Avec telle fortune qu'au retour du combat, il ne s'en trouva une seule à dire. Les âmes des empereurs et des savetiers sont jetées à même moule. Considérant l'importance des actions des princes et leur poids, nous nous persuadons qu'elles soient produites par quelque cause si pesante et importante. Nous nous trompons. Ils sont menés et ramenés en leur mouvement par les mêmes ressorts que nous sommes aux nôtres. La même raison qui nous fait tancer avec un voisin dresse entre les princes une guerre. La même raison qui nous fait fouetter un laquais tombant en un roi lui fait ruiner une province. Ils veulent aussi légèrement que nous, mais ils peuvent plus. Pareils appétits agitent un citron et un éléphant. Quant à la fidélité, il n'est animal au monde traître au prix de l'homme. Nos histoires racontent la vive poursuite que certains chiens ont fait de la mort de leur maître. Le roi Pyrrhus, ayant rencontré un chien qui gardait un homme mort, ayant entendu qu'il y avait 8 jours qu'il faisait cet office, commanda qu'on enterrât ce corps et mena ce chien quant à lui. Un jour qu'il assistait aux montres générales de son armée, ce chien, apercevant les meurtriers de son maître, leur courut sus avec grands abois et apprêté de courroux, et par ce premier indice achemina la vengeance de ce meurtre qui en fut faite bientôt après par la voix de la justice. Autant en fit le chien du sage Hésiode, ayant convaincu des enfants de Ganistorn aux Paxiens du meurtre commis en la personne de son maître. Un autre chien, étant à la garde d'un temple à Athènes, ayant aperçu un larron sacrilège qui emportait les plus beaux joyaux, se mit à aboyer contre lui tant qu'il put. Mais les marguilliers ne s'étant point éveillés pour cela, il se mit à le suivre, et le jour étant venu, se tint un peu plus éloigné de lui, sans le perdre jamais de vue. S'il lui offrait à manger, il n'en voulait pas, et aux autres passants qu'il rencontrait en son chemin, il leur faisait fête de la queue, et prenait de leurs mains ce qu'il lui donnait à manger. Si son larron s'arrêtait pour dormir, il s'arrêtait quand et quand au lieu même. La nouvelle de ce chien étant venue aux marguilliers de cette église, ils se mirent à le suivre à la trace, s'enquérant des nouvelles du poil de ce chien, et enfin le rencontrèrent en la ville de Croyon et le larron aussi, qu'ils ramenèrent en la ville d'Athènes, où il fut puni. Et les juges, en reconnaissant de ce bon office, ordonnèrent du public certaines mesures de bled pour nourrir le chien, et aux prêtres d'en avoir soin. Alors Plutarque témoigne cette histoire comme chose très avérée et avenue en son siècle. Quant à la gratitude, car il me semble que nous avons besoin de mettre ce mot en crédit, ce seul exemple y suffira. Capion récite comme ayant été lui-même spectateur. Un jour, dit-il, qu'on donnait à Rome, au peuple, le plaisir du combat de plusieurs bêtes étranges, et principalement de lions de grandeur inusitée, il y en avait un, entre autres, qui par son port furieux, par la force et grosseur de ses membres, et un rugissement hautain et épouvantable, attirait à soi la vue de toute l'assistance. Entre les autres esclaves qui furent présentés au peuple en ce combat des bêtes, fut un Androdus de Dace, qui était un seigneur romain de qualité consulaire. Ce lion, l'ayant aperçu de loin, s'arrêta premièrement tout court, comme étant entré en admiration, et puis s'approcha tout doucement, d'une façon molle et paisible, comme pour entrer en reconnaissance avec lui. Cela fait, et s'étant assuré de ce qu'il cherchait, il commença à battre de la queue à la mode des chiens qui flattent leur maître, et à baiser, lécher les mains et les cuisses de ce pauvre misérable tout transi d'effroi et hors de soi. Androdus, ayant repris ses esprits, par la bénignité de ce lion et rassuré sa vue pour le considérer et reconnaître, c'était un singulier plaisir de voir les caresses et les fêtes qu'ils s'entrefaisaient l'un à l'autre, de quoi le peuple ayant élevé des cris de joie, l'empereur fit appeler cet esclave pour entendre de lui le moyen d'une si étrange avènement. Il lui récita une histoire nouvelle et admirable. Mon maître, dit-il, étant proconsul en Afrique, je fus contraint, pour les cruautés et rigueurs qu'il me tenait, me faisant journellement battre, me dérober de lui et m'enfuir. Et pour me cacher sûrement d'un personnage ayant une si grande autorité en la province, je trouvais non plus court de gagner les solitudes et les contrées sablonneuses et inhabitables de ce pays-là, résolu, si le moyen de me nourrir venait à me faillir, de trouver quelque façon de me tuer moi-même. Le soleil étant extrêmement âpre sur le midi et les chaleurs insupportables, je m'embâtis sur une caverne cachée, inaccessible, et me jetai dedans. Bientôt après, y survint ce lion, ayant une patte sanglante et blessée, et tout plaintif et gémissant des douleurs qu'il y souffrait. À son arrivée, j'eus beaucoup de frayeur, mais lui, me voyant massé dans un coin de sa loge, s'approcha tout doucement de moi, me présentant sa patte offensée et me la montrant comme pour demander secours. Je lui ôtai alors un grand escoc qu'il y avait et m'étant un peu apprivoisé à lui, pressant sa plaie, en fit sortir l'ordure qui s'y amassait, l'essuyai et nettoyai le plus proprement que je pus. Lui, se sentant allégé de son mal et soulagé de cette douleur, se prit à reposer et à dormir, ayant toujours sa patte entre mes mains. De là, hors lui et moi, vécîmes ensemble en cette caverne 3 ans entiers de même viande, car des bêtes qu'il tuait à la chasse, il m'en apportait les meilleurs endroits, que je faisais cuire au soleil à faute de feu, et m'en nourrissais. À la longue, m'étant ennuyé de cette vie brutale et sauvage, comme ce lion était allé un jour à sa quête accoutumée, je partis de là, et à ma 3e journée, fus surpris par les soldats qui me menèrent d'Afrique en cette ville à mon maître, lequel soudain me condamna à mort et à être abandonné aux bêtes. Or, à ce que je vois, ce lion fut aussi pris bientôt après, qui m'a à cette heure voulu récompenser du bienfait et guérison qu'il avait reçu de moi. Voilà l'histoire qu'Andronus récita à l'empereur, laquelle il fit aussi entendre de main au peuple, et par quoi, à la requête de tous, il fut mis en liberté, et absous de cette condamnation et par ordonnance du peuple, lui fut fait présent de ce lion. Nous voyons depuis, dit Appien, Andronus conduisant ce lion à toute une petite laisse, se promenant par les tavernes à Rome, recevoir l'argent qu'on lui donnait. Le lion se laissait couvrir des fleurs qu'on lui jetait, et chacun dire en les rencontrant « Voilà le lion, hôte de l'homme, voilà l'homme, médecin du lion !» Nous pleurons souvent la perte des bêtes que nous aimons, aussi font-elles la nôtre. Comme aucune de nos nations ont les femmes en commun, aucune a chacun la sienne. Cela ne se voit-il pas aussi entre les bêtes et des mariages mieux gardés que les nôtres? Quant à la société et confédération qu'elles dressent entre elles pour se liguer ensemble et s'entre-secourir, il se voit des bœufs, des pourceaux et autres animaux qu'au cri de celui que vous offensez, toute la troupe accourt à son aide et se rallie pour sa défense. L'escar, quand il avait avalé hameçon du pêcheur, ses compagnons s'assemblent en foule autour de lui et rongent la ligne. Et si d'aventure il y en a un qui est donné dedans la nasse, les autres lui baillent la queue par dehors et lui la serrent tant qu'il peut à belles dents. Alors ils le tirent ainsi au dehors et l'entraînent. Les barbiers, quand l'un de leurs compagnons est engagé, mettent la ligne contre leur dos, dressant une épine qu'ils ont d'entrée comme une scie, à tout laquelle ils la scient et coupent. Quant aux particuliers offices que nous tirons l'un de l'autre pour le service de la vie, il s'en voit plusieurs pareils exemples parmi elles. Ils tiennent que la baleine ne marche jamais, qu'elle n'ait au-devant d'elle un petit poisson, semblable au goujon de mer, qui s'appelle pour cela la guide. La baleine le suit, le laissant mener et tourner aussi facilement que le timon fait retourner la navire. Et en récompense aussi, au lieu que toute autre chose, soit bête ou vaisseau, qui entre dans l'horrible chaos de sa bouche de ce monstre, est un continent perdu et englouti, ce petit poisson s'y retire en toute sûreté, et y dort, et pendant son sommeil, la baleine ne bouge. Mais aussitôt qu'il sort, elle se met à le suivre sans cesse, et si de fortune elle l'écarte, elle va errant çà et là, et souvent se froissant contre les rochers, comme un vaisseau qui n'a point de gouvernail. Ce que Plutarque témoigne avoir vu en l'île d'Ancicire. Il y a une pareille société entre le petit oiseau qu'on nomme le roitelet et le crocodile. Le roitelet sert de sentinelle à ce grand animal, et si l'ichneumon, son ennemi, s'approche pour le combattre, ce petit oiseau, de peur qu'il ne le surprenne endormi, va de son chant et à coups de bec l'éveillant et l'avertissant de son danger. Il vit des demeurants de ce monstre qui le reçoit familièrement en sa bouche et lui permet de becqueter dans ses mâchoires et entre ses dents et y recueillir les morceaux de chair qui y sont demeurés. Et s'il veut fermer la bouche, il l'avertit premièrement d'en sortir en la serrant peu à peu sans l'étreindre et l'offenser. Cette coquille qu'on nomme la nacre vit ainsi avec le pinacothère, qui est un petit animal de la sorte d'un cancre, lui servant d'huissier et de portier, assis à l'ouverture de cette coquille qu'il tient continuellement entrebâillée et ouverte, jusqu'à ce qu'il y voie entrer quelques petits poissons propres à leur prise. Car lors il entre dans le nacre et lui va pinçant la chair vive et la contraint de fermer sa coquille. Lors, eux deux ensemble, mangent la proie enfermée dans leur fort. En la manière de vivre des thons, on y remarque une singulière science de trois parties de la mathématique. Quant à l'astrologie, il l'enseigne à l'homme, car il s'arrête au lieu où le solstice d'hiver les surprend et n'en bouge jusqu'à l'équinoxe en suivant. Voilà pourquoi Aristote même leur concède volontiers cette science. Quant à la géométrie et arithmétique, ils font toujours leurs bandes de figures cubiques, carrées en tous sens, et en dressent un corps de bataillon solide, clos et environné tout alentour, à six faces toutes égales. Puis nagent en cette ordonnance carrée, autant large derrière que devant, de façon que qui en voit et compte un rang, il peut aisément nombrer toute la troupe, d'autant que le nombre de la profondeur est égal à la largeur et la largeur à la longueur. Quant à la magnanimité, il est malaisé de lui donner un visage plus apparent qu'en ce fait du grand chien qui fut envoyé des Indes au roi Alexandre. On lui présenta premièrement un cerf pour le combattre, et puis un sanglier, et puis un ours. Il n'en fit compte, et ne daigna se remuer de sa place. Mais quand il vit un lion, il se dressa incontinent sur ses pieds, montrant manifestement qu'il déclarait celui-là seul digne d'entrer en combat avec lui. Touchant la repentance et reconnaissance des fautes, on récite d'un éléphant, lequel, ayant tué son gouverneur par impétuosité de colère, en prit un deuil si extrême qu'il ne voulut on que puis manger et se laissa mourir. Quant à la clémence, on récite d'un tigre, la plus inhumaine bête de toutes, que lui ayant été baillé un chevreau, il souffrit 2 jours la faim avant que de le voir enfoncé, et le troisième, il brisa la cage où il s'était enfermé pour aller chercher autre pâture, ne se voulant prendre au chevreau, son familier et son hôte. Et quant au droit de la familiarité et convenance qui se dresse par la conversation, il nous advient ordinairement d'apprivoiser des chats, des chiens et des lièvres ensemble. Mais ce que l'expérience apprend à ceux qui voyagent par mer, et notamment la mer de Sicile, de la condition des Alcyons surpasse toute humaine cogitation. De quelle espèce d'animaux a jamais nature tant honoré les couches, la naissance et l'enfantement? Car les poètes disent bien qu'une seule Iside Clélos, étant auparavant vacante, fut affermie pour le service de l'enfantement de la tonne. Mais Dieu a voulu que toute la mer fût arrêtée, affermie et aplanie, sans vagues, sans vents et sans pluie, cependant que l'Alcyon fait ses petits, qui est justement environ le solstice, le plus court jour de l'année. Et par son privilège, nous avons 7 jours et 7 nuits, au fin cœur de l'hiver, que nous pouvons naviguer sans danger. Leurs femelles ne reconnaissent autre mâle que le leur propre, l'assistent toute leur vie sans jamais l'abandonner. S'il vient à être débile et cassé, elles le chargent sur leurs épaules, le portent partout et le servent jusque à la mort. Mais aucune suffisance n'a encore pu atteindre à la connaissance de cette merveilleuse fabrique, de quoi l'Alcyon compose le nid pour ses petits, ni en deviner la matière. Plutarque, qui en a vu et manié plusieurs, pense que ce sont des arêtes de quelques poissons qu'elle conjoint et lie ensemble, les entrelaçant les unes les longs des autres de travers et ajoutant des courbes et des arrondissements, tellement qu'enfin elle en forme un vaisseau rond prêt à voguer. Puis, quand elle a parachevé de le construire, elle le porte au battement du flot marin, là où la mer le battant tout doucement, lui enseigne à radouber, ce qui n'est pas bien lié, et à mieux fortifier aux endroits où elle voit que sa structure se dissout et se lâche pour les coups de mer. Et au contraire, ce qui est bien joint, le battement de la mer, le vous estreint et vous le serre de sorte qu'il ne se peut ni rompre ni dissoudre ou endommager à coups de pierre ni de fer, si ce n'est à toute peine. Et ce qui plus est à admirer, c'est la proportion et figure de la concavité du dedans. Car elle est composée et proportionnée de manière qu'elle ne peut recevoir ni admettre autre chose que l'oiseau qui l'a bâti. Car à toute autre chose, elle est impénétrable, close et fermée, tellement qu'il n'y peut rien entrer, non pas l'eau de la mer seulement. Voilà une description bien claire de ce bâtiment et emprunté de bon lieu. Toutefois, il me semble qu'elle ne nous éclaircit pas encore suffisamment la difficulté de cette architecture. Or, de quelle vanité nous peut-il partir de loger au-dessous de nous et d'interpréter dédaigneusement les effets que nous ne pouvons imiter ni comprendre ?